C'est à Clichy, les 28 et 29 janvier 1984, que se créent enfin les Verts, tels que nous les connaissons et tels qu'ils sont encore aujourd'hui.
Yves Frémion, écrivain, journaliste, critique de BD, ancien député européen vert et actuellement conseiller régional d'Île-de-France, auteur de « L'histoire de la révolution écologiste » publié aux éditions Webec, disponible chez Ecodif et dans toutes les librairies.
Environ un millier de personnes parviennent à se mettre d'accord pour créer ce qui s'appelle alors et s'appelle toujours, je pense officiellement, les Verts, Parti écologiste, Confédération écologiste.
Yves Frémion, écrivain, journaliste, critique de BD, ancien député européen vert et actuellement conseiller régional d'Île-de-France, auteur de « L'histoire de la révolution écologiste » publié aux éditions Webec, disponible chez Ecodif et dans toutes les librairies.
Les modes de fonctionnement, les statuts qui sont adoptés ce jour-là créent une structure qui est plus ou moins la même plus de 20 ans après, c'est-à-dire que il n'y a pas de président, il y a des porte-paroles, on en crée quatre d'un coup, un secrétaire général qui est surtout chargé de faire tourner la boutique, qui n'est pas du tout un secrétaire général politique. D'ailleurs, celui qui est investi, Michel Delors, est une figure des débuts du mouvement. C'est plutôt quelqu'un qui est un technique plus qu'un politique. Et on crée un conseil national interrégional, le fameux CNIR, qui existe toujours et qui intrigue toujours, plus de 20 ans après, les journalistes. Il est composé aux trois quarts, un quart, comme on dit, c'est-à-dire un quart d'élus sur des listes nationales et trois quarts envoyés à la proportionnelle par les régions. Tout ce mode de fonctionnement montre bien qu'on est à cheval entre la création d'un mouvement politique ou la création d'un parti politique, dualité qui perdure jusqu'à aujourd'hui, même si depuis quelques années est l'entrée chez les Verts d'un certain nombre de militants venus de formations politiques qui étaient eux carrément des partis, nous pousse petit à petit à ressembler plus à un parti politique qu'à un mouvement. Pratiquement toutes les composantes de l'écologie politique de l'époque en sont, sauf une partie de la Confédération écologiste qui est autour de Brice Lalonde. Et Brice Lalonde, lui, n'est même pas venu. Il a parié que ça n'allait pas marcher et il s'est dit « le recours, ce sera moi, pas de peau, ça marche » et le voilà marginalisé un peu définitivement. C'est le début de son basculement vers le libéralisme qui s'accentuera très 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 vite. Et on peut considérer que ce que j'appelle dans mon livre « Les années Lalonde » sont terminées et qu'on va rentrer dans une autre ère. Tout de suite, ce nouveau parti va être confronté à une première élection puisque 5 mois après sa création, en juin 1984, ont lieu des européennes. Et on devine que ce sera une élection très importante pour les écologistes puisque déjà d'autres écologistes vont entrer au Parlement européen dans d'autres pays. La tête de liste aux européennes sera Didier Anger, qui est un des quatre porte-parole des Verts. Les autres y sont aussi, notamment des figures du parti comme Jean Brière ou Yves Cochet, mais aussi Solange Fernex, qui est à l'époque la femme la plus emblématique du parti. Le directeur de campagne va se faire remarquer à cette occasion, c'est un certain Jean-Louis Vidal, qui est un ancien ambulancier de mai 68 et qui va jouer un rôle très important dans les années suivantes jusqu'à sa mort. La surprise de cette élection, ou est-ce vraiment une surprise, sera que Brice Lalonde, qui voit bien qu'on est en train de lui manger de la laine sur le dos, au lieu de se rallier et de récupérer un peu le mouvement, ce qu'il aurait été en capacité de faire, va essayer de monter une liste invraisemblable, faite de briques et de brocs, qui va s'appeler RERE, ce qui signifie Entente radicale et écologiste pour les États-Unis d'Europe, qui est effectivement, comme son nom l'indique, composée de certains écologistes et aussi des radicaux de gauche. Cette liste est évidemment déjà téléguidée un peu de l'Élysée. Nous sommes sous Mitterrand. Mitterrand n'est pas mécontent d'essayer de diviser ce mouvement émergent. Et Lalonde va appeler absolument tout le monde. Son plus grand soutien, c'est un tout nouveau journal qui vient de se créer, qui s'appelle L'Événement du Jeudi, mené par Jean-François Kahn, l'ineffable Jean-François Kahn. Mais on va trouver aussi bien un Olivier Stirn, qui est un centriste, que Yves Montand, qui vient de claquer la porte du Parti communiste. Enfin, ça va être tout et n'importe quoi. Et cette liste invraisemblable fera partir les derniers militants politiques autour de Lalande. Par exemple, quelqu'un comme Jean-Jacques Porchaise, qui restait avec lui jusqu'au bout, le quitte à ce moment-là et petit à petit se met totalement en stand-by. On le reverra par la suite. Pour donner un peu le ton, Brice Lalande va faire un meeting à Bordeaux. Il est accueilli par des jets de farine envoyés par les Verts. Le leader de ce mouvement étant quelqu'un qu'on retrouvera par la suite, qui s'appelle Geneviève Anduéza, qui sera une militante verte, une dirigeante verte importante avant de succéder à Wechter à la tête du MEI plus tard. Nouvelle division donc quand même des voix écologistes, ce qui fait que les résultats seront mauvais, qu'il n'y aura encore une fois pas d'élus puisque personne ne franchit la barre des 5% et qu'il faudra attendre encore 5 ans pour voir des écolos au Parlement européen, enfin des écolos français en tout cas. Ce qu'on peut constater aussi, c'est que tout ce qui est la mouvance extrême-gauchiste ou la mouvance gauche de la gauche à l'époque subit aussi un échec complet. Et on peut dater de cette époque-là la fin de ce qu'on peut appeler à l'époque autogestionnaire d'une certaine gauche ou même de l'écologie, c'est-à-dire que l'autogestion était un thème absolument majeur, incontournable à l'époque, et on commence à abandonner là-dessus petit à petit dans l'ensemble des formations. Aujourd'hui, c'est un thème, on peut le dire, assez marginal, y compris à l'extrême gauche. Néanmoins, l'écologie n'est pas finie, puisque tout de suite, dans la foulée, il y a des cantonales où les résultats des Verts, là où ils se présentent, sont bons. Beaucoup dépassent la barre des 10%, c'est quand même intéressant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une vague d'adhésion dans ce nouveau parti qui est les Verts. Et on voit arriver des gens qui, eux, ont milité dans d'autres formations à ce moment-là. Alors, il y a des gens qu'on va retrouver dans la politique par la suite. On verra par exemple arriver un Michel Duchesne qui sera porte-parole des Verts par la suite. On va voir arriver un jeune journaliste qui s'appelle Jean-Luc Benamias. On voit arriver un des rares experts de haut rang chez les Verts qui s'appelle Alain Rist. On voit arriver un certain Félix Guattari. On voit arriver un juriste de l'environnement comme Raphaël Romy. Je prends ces exemples parce que ce sont des noms qui disent sans doute des choses aux militants verts un peu anciens, qui sont tous des gens qui vont jouer un rôle par la suite. Et on va assister en l'espace de à peine plus d'un an à une série de grandes catastrophes environnementales ou politiques qui vont évidemment ramener dans les rangs écologistes beaucoup de gens. Alors ces catastrophes, je les rappelle parce qu'elles vont vous parler quelque chose. C'est d'abord en décembre 84, la catastrophe d'une usine chimique à Bhopal en Inde, qui fera au bas mot 25 000 morts et des centaines de milliers de gens atteints. C'est 8 mois après, en juillet 85, l'affaire du Rainbow Warrior, qu'on racontera peut-être tout à l'heure. Et en avril 86, c'est Tchernobyl. Donc cette cascade de catastrophes, chaque fois évidemment, fait augmenter dans l'opinion la conscience environnementale, la conscience écologiste, et amène évidemment des centaines de nouveaux militants en écologie politique. Cela se sent un petit peu dans les élections, puisque on va avoir très peu de temps après les premiers élus régionaux verts, puisqu'il y a des régionales, même si le résultat n'est pas complètement extraordinaire, puisqu'en moyenne, les Verts font 3,40%, c'est vraiment pas très élevé. Il y a quand même trois conseillers régionaux verts pour la première fois en France. Ce sont des noms qu'on connaît bien, puisqu'il y en a deux en Alsace, qui sont Antoine Wechter et André Buschmann, qui est aussi la figure montante du parti. En fait, tous les deux sont des figures montantes du parti. Et Didier Anger, qui est à l'époque la personnalité dominante, qui lui se fait élire en Basse-Normandie. Pour la petite histoire, parmi les nouveaux élus régionaux, on repérera un écologiste un petit peu indépendant en Anjou, sur la liste Anjou écologie autogestion, l'autogestion étant déjà toujours là, Marc Jiquel, qui fera un passage chez les Verts par la suite, puis qui repartira, et un radical de gauche qui ne s'est pas encore trop marqué dans l'écologie dans le Sud, qui s'appelle Yves Pietrasanta. Pour mémoire, il y a eu quand même une petite dissidence en Seine-Saint-Denis, où des personnalités comme Jean-Luc Benamias, Alain Lipietz, qui débutent un peu en écologie, ont préféré s'allier avec le PSU et faire une liste à part qui s'appelle Écologie 93, avec une liste de soutien prestigieux assez important, mais ça ne leur portera pas plus de voix. Déjà, on sent qu'il y a une légitimité qui est en train de se créer autour de ce nouveau parti que sont les Verts.